Et nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Au lendemain des cérémonies marquant le centenaire de l'armistice de 1918, nous répondons ce matin à toutes vos questions sur les tirailleurs africains qui ont combattu sous le drapeau français durant la Première Guerre mondiale. À mes côtés aujourd'hui et avec vous en direct sur RFI, deux des rares historiens français à avoir véritablement travaillé sur le rôle de ces combattants africains. Éric Dereau, à mes côtés ici à Paris en studio, bonjour et bonjour. Merci encore d'être avec nous. Je signale notamment pour ceux qui s'intéressent et voudraient voir des images, je les conseille impérativement de voir ce film documentaire intitulé La Force Noire. Marc Michel est dans les studios de France Bleu Aix-en-Provence, agrégé d'histoire, professeur émérite à l'université d'Aix-en-Provence. On vous doit là aussi de nombreux ouvrages, notamment ce dernier publié il y a quelques jours, Combattants de l'Empire, les troupes coloniales dans la Grande Guerre. Nous avons beaucoup de choses à nous dire, les auditeurs sont très nombreux au standard, c'est un sujet qui les passionne. Je voudrais, pour démarrer cette deuxième partie, retrouver Elias, qui était avec nous juste avant le journal. Elias qui avait une deuxième question à nous poser. C'est bien ça, Elias?
Oui, monsieur Juan.
On vous écoute.
Comment les autres puissances coloniales ont-elles traité leurs tirailleurs?
Alors, Éric Dereau, c'est vrai qu'entre 14 et 18, la Grande-Bretagne, le Portugal, la Belgique, l'Allemagne ont également recruté des milliers de soldats dans leurs empires. Dans quelles circonstances, de quelle façon, et étaient-ils aussi bien ou peut-être maltraités?
Alors, ce qui est très important de noter, c'est que les tirailleurs africains, pour la République française, représentent quelque chose de plus que simplement un apport de conscription. Faut pas oublier qu'il y a tout le discours de la mission civilisatrice de cette France universelle, modèle des droits de l'homme qui est porté, et les Français n'hésitent pas à faire venir sur leur territoire, dès la fin du 19e, des tirailleurs africains. Alors qu'en revanche, en Allemagne, on a une toute autre approche, et en Angleterre aussi, on n'a pas envie de faire venir des soldats africains, ou noirs, ou indigènes, parce que justement, on pense qu'il ne faut pas mélanger, dans une guerre européenne, des gens qui, sur l'échelle de hiérarchie des races, telle qu'on la voit à l'époque, ne serait pas digne d'y figurer. Et par conséquent, la France est la seule à engager des troupes africaines sur le théâtre d'opérations africaines, européen. En revanche, évidemment, ces troupes vont beaucoup combattre dans une guerre totalement oubliée, qui est la guerre qui va se dérouler de 1914 à 1918 sur le continent africain.
Et on va y revenir dans un instant, justement, Marc Michel, concernant la façon dont les troupes africaines étaient traitées par la Grande-Bretagne, le Portugal, la Belgique, l'Allemagne. Je lisais en préparant cette émission que même les Américains voyaient d'un très mauvais œil le fait que des Noirs puissent combattre d'égal à égal avec des Blancs dans cette armée, dans cette guerre qui se déroulé en Europe.
Oui, tout à fait. J'adhère d'ailleurs à tout ce que vient de dire Éric Dereau. L'affaire d'une circulaire qui est parue en 1918 que voulaient imposer les Américains de ségrégation des troupes noires et des troupes blanches, je mets des guillemets, tout ça a suscité beaucoup de controverses et pousser le commandement français à rejeter toute idée de ségrégation, de séparation des hommes entre les soldats noirs et les soldats blancs. On ne peut pas oublier cependant que la Grande-Bretagne a été la plus grande à recruter énormément de soldats. De soldats coloniaux,
indiens notamment,
des centaines de milliers d'indiens qui ont combattu pour l'essentiel en Mésopotamie, en Irak actuel, en Syrie actuelle, et qui étaient pour beaucoup des musulmans. Donc les Anglais ont effectivement utilisé des soldats indiens, ils les ont utilisés en Mésopotamie, ils les ont utilisés en Afrique dans les guerres pour la conquête des colonies allemandes. Ouais. Pour les Allemands, il est évident que l'idée même de faire combattre en Europe des soldats noirs contre des soldats blancs était totalement impensable.
Oui, comme le disait Éric Dereau. Éric Dereau qui disait que l'Afrique, effectivement, a été le théâtre de combats au cours de la Première Guerre mondiale. On a justement une question qui nous vient de Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Bonjour Joseph.
Bonjour Juan.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Oui, j'avais une question sur
la RDC, mon pays, je voudrais savoir quel a été le rôle ou le niveau d'implication de la RDC dans la résolution du conflit dû à la Première Guerre mondiale.
Alors, on rappelons tout de même qu'à l'époque, en 1914, lorsque la guerre éclate, la République démocratique du Congo s'appelait le Congo belge. Éric Dereau, au tout début de la guerre, la Belgique était neutre.
Oui, mais elle entre très vite, à partir du moment où elle est envahie, elle entre dans la guerre. Et là, il va se passer une opération extrêmement importante qui est la conquête du Cameroun. Le Cameroun est allemand. Les Français ont négocié en 1911 un accord avec l'Allemagne. Ils ont rétrocédé une partie du Congo, du Congo français à l'époque, de l'Ubangi, du Gabon. Et il va y avoir des combats extrêmement violents, très forts, totalement oubliés. En particulier, je tiens à le dire, auxquels ont participé donc la force publique, ce sont les tirailleurs belges finalement, auxquels ont participé les tirailleurs congolais, et un livre, initiative remarquable, un livre vient d'y être consacré par les éditions du Manguier, qui s'appelle Le Congo dans la Première Guerre mondiale, et que j'encourage votre auditeur à regarder, parce qu'il remet bien en perspective la participation de ces contingents africains à une guerre totalement oubliée qui va durer jusqu'en 1918. Le Cameroun va être finalement occupé par les Anglais, les Belges, alors par des forces qui descendent du Tchad, prises en tenaille, donc de toutes ces... En 1916, il faudra attendre 1918 pour vaincre définitivement les forces allemandes.
Oui, puisque ces combats, rappelons aux plus jeunes de nos auditeurs, concernaient les colonies allemandes, le Cameroun, le Togo, la Namibie. J'ai lu ce week-end, Marc Michel, votre dernier ouvrage, Combattants de l'Empire. Évidemment, vous évoquez le rôle de la force publique, donc ces tirailleurs congolais. Et alors, il y a évidemment les combattants. Et j'aimerais que vous nous parliez des porteurs. Vous parlez de ces centaines de milliers de porteurs qui ont contribué à leur façon également à la lutte contre l'Allemagne à ce moment-là.
Oui, dans un livre précédent sur l'Afrique prise dans l'engrenage de la Grande Guerre, j'ai insisté sur les conquêtes des colonies allemandes, Togo, Cameroun, mais surtout l'Est africain allemand, où le chef des troupes allemandes, qui était composé de soldats noirs, des Askaris, a pu résister jusqu'en novembre 1918, en Tanzanie actuelle, ne s'est rendu que le 18 novembre 1918 devant les assauts de la force publique belge, puisque il s'agissait du Congo belge, et des troupes sud-africaines, très nombreuses. La force publique, c'était une sorte de force de police avant 1914, elle est devenue une véritable armée pendant la guerre, et a combattu autour des Grands Lacs pour la conquête du Rwanda et du Burundi, une conquête qui a suscité énormément de violence, et pour le contrôle du lac Tanganyika, avec de véritables petits combats navals, entre des flottilles belges et une flottille allemande.
Alors
mais c'était des bateaux relativement importants.
On pourrait parler des heures de cette bataille autour du lac Tanganyika. Un mot, parce que c'était ma question initiale, Marc-Michel, excusez-moi, sur ces milliers de porteurs, c'est le moment ou jamais de leur rendre hommage.
Alors effectivement, parce que pour faire cette conquête, il a fallu des porteurs. Et les Belges, les Anglais, les Allemands ont recruté effectivement de force des centaines de milliers de porteurs, dans l'Est, surtout dans l'Est africain, mais également pour la conquête du Cameroun. À la fin de la prise de Yaoundé en janvier 1916, beaucoup de Camerounais ont fui vers le sud, et avec eux des porteurs qui avaient été recrutés par les Allemands, des dizaines de milliers de porteurs
Éric,
au Cameroun.
Éric Dereau, une précision ?
Oui, pour aller dans le sens de ce que dit Marc, il ne faut pas oublier la pression économique qui est mise sur l'Afrique. On voit aussi les différents belligérants ont également prélevé un certain nombre de biens, et modifiant parfois des régimes de culture totalement différents. Et donc ça aussi, c'est une dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est la dimension économique de la pression de la Grande Guerre.
Il y a eu cette contribution humaine, en tant que les soldats, main d'œuvre également, mais aussi matières premières. Absolument. Les matières premières africaines ont permis à la France de faire face lors de cette guerre 14-18. Autre question au standard. Bonjour Senkoun.
Bonjour Juan, bonjour aux invités.
Nous vous écoutons.
Merci Juan. Je voudrais profiter d'abord pour rendre hommage à tous ces soldats africains et du monde entier, parce qu'ils nous ont permis d'avoir une histoire commune. Alors je me suis posé des questions à ce sujet.
Oui.
Comment expliquer que les pensions des ex-combattants africains aient été cristallisées de 1959 à 2001? Et ma seconde question, Quelles sont les mesures prises désormais pour accompagner les héros de guerre par l'État français ?
Alors, bonne question, Éric Doreau. Comment se fait-il qu'en 1959, De Gaulle, avec la loi dite de cristallisation, décide de geler les pensions, les retraites de ces tirailleurs africains ?
Alors, d'abord, c'est pas tout à fait juste de dire que c'est le général De Gaulle, parce que lui, au contraire, va lutter en permanence pour essayer de les maintenir, parce qu'il sait ce qu'il doit aux tirailleurs, en particulier ce qu'il doit à Brazzaville, aux Congolais.
Tout à fait.
C'est de là qu'est partie la France libre, c'est de là qu'a été créé l'ordre de libération.
Donc, jusqu'au bout, il aura essayé de s'opposer à cette loi.
Il y a une sorte de logique, je dirais, financière qui fait qu'à partir du moment où ces pays sont devenus des pays souverains et indépendants, eh bien le ministère des Finances leur applique un certain nombre de règles et petit à petit, le pouvoir d'achat baissant, évidemment, la différence va être de plus en plus criante dans le traitement.
Donc on est à ce moment-là en pleine vague de décolonisation et si je peux caricaturer, Marc Michel me contredira peut-être, il est agrégé d'histoire, puisque vous voulez votre indépendance, à ce moment-là, bah, nous gelons vos pensions.
Oui, c'est-à-dire, ce sont les règlements. Vous n'êtes plus français, donc le code des pensions ne s'applique plus de la même façon, etc.
Marc Michel, le gel des pensions, des retraites est très mal compris par ces anciens combattants.
Oui, c'est une question douloureuse qui a finalement été tranchée, j'espère définitivement, par une décision du président Chirac. Il faut distinguer cependant entre les pensions militaires et qui sont dues aux soldats de métier, qui sont en sorte des fonctionnaires, et les pensions des anciens combattants qui sont titulaires d'une carte d'ancien combattant et qui est une pension très, très faible. Et enfin, les pensions dues aux familles.
Oui.
Alors, en ce qui concerne les pensions des militaires de carrière, bon, le problème a été résolu. Les pensions des anciens combattants ne représentent pas grand-chose et malheureusement, en ce qui concerne les soldats de la Première Guerre mondiale, il n'y a plus de candidats aux pensions, si j'ose dire.
Oui, d'ailleurs, il y a cette histoire qui est très emblématique, celle d'Abdoulaye Ndiaye, ce Sénégalais enrôlé de force en 1914, qui participe à l'expédition des Dardanelles, au combat de la Somme, à Verdun. Il est blessé à deux reprises. Il revient au Sénégal à la fin de la guerre et on lui dit « Bon, bah maintenant, tu retournes dans ton champ. » Et ce n'est qu'en 1949, après le retour des tirailleurs de la Seconde Guerre mondiale, qu'il comprend, mais vraiment par hasard, qu'en tant qu'ancien combattant, il aurait pu percevoir des pensions. Jacques Chirac voulait lui remettre la Légion d'honneur en 1998, et cet homme, Abdoulaye Ndiaye, à 104 ans, meurt la veille du jour où il devait recevoir la Légion d'honneur promise par le président français Jacques Chirac. Que dire en quelques mots du sort d'Abdoulaye Ndiaye, Éric Doreau?
Oui, il est abominable. En même temps, il représente pas le sort des tirailleurs. Je pense qu'il est rentré dans son village, qu'il a tiré un trait, comme beaucoup d'anciens combattants d'ailleurs sur la terre entière, et qu'il ne s'est pas préoccupé de ça. Et c'est vrai que c'est un peu emblématique, hélas, du désintérêt dans lequel on a laissé les tirailleurs à partir d'un certain moment, évident.
Alors, Marc Michel disait effectivement que depuis 2006, les pensions sont totalement décristallisées. Mahamat, bonjour.
Oui, bonjour, Gomez.
Je donne votre nom de famille, vous l'avez donné au standard, Mahamat Tchalé, vous êtes à N'Djamena, et vous êtes le président d'une association qui s'occupe d'aider les ayants droit des anciens combattants à percevoir leur pension, puisque vous le disiez au standard, c'est encore aujourd'hui assez compliqué pour monter les dossiers, il y a de nombreuses démarches administratives.
Oui, également, monsieur Gomez, avant tout, je suis le petit-fils du sergent Némir du régiment des tirailleurs sénégalais du Tchad, qui a participé à la Première Guerre mondiale, et également, je suis le fils de Tchalé Beldé, un ancien combattant de l'Indochine. Actuellement, comme vous l'avez dit, je suis le président national de l'association Devenir de la France libre du Tchad. On retrouve dans cette association les filles, les fils et les veuves et les anciens combattants. Nous avons des objectifs, comme vous l'avez signé, d'organiser les activités mémorielles.
Et pourquoi c'est...
Les anciens combattants.
Bien sûr, Mamat, mais pourquoi est-il si compliqué encore aujourd'hui de monter un dossier pour percevoir une pension? Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confronté en quelques mots, parce qu'on arrive malheureusement déjà à la fin de l'émission?
Voilà, donc la difficulté est réelle, puisque le dossier des anciens combattants, quand on monte un dossier, il faut attendre 10 ans. Et entre 10 ans, avant que la veuve perçoive la pension. Et c'est pendant tous ces 10 ans, il y a des anciens combattants qui meurent en cours de chemin.
Mmh.
Et les charges reviennent pour les enfants. Nous sommes assez fatigués. Alors donc, il faudrait quand même qu'on restaure leurs droits. Ça, c'est à eux.
Ouais. Éric Doreau, je vous vois écouter attentivement Mahamat. C'est compliqué, vraiment, non, aujourd'hui.
En réalité, ça a été compliqué. À partir du moment où la décristallisation était effective, c'est vrai qu'on a demandé aux anciens combattants de refaire des démarches personnelles. C'est-à-dire qu'il fallait parce qu'il faut aussi voir, hélas, comme dans toutes ces affaires, qu'il y a eu beaucoup d'escroqueries de l'ancien combattant. Hélas. Mais c'est pas non plus ces escroqueries qui doivent légitimer le fait qu'on s'en préoccupe pas. En tout cas, les ambassades de France, les consulats de France sont extrêmement vigilants, mais je peux vraiment vous assurer, pour y être allé dans chacun d'entre eux, que on fait attention. Mais c'est vrai que, parfois, la famille africaine, la parentèle africaine est extrêmement large, les textes législatifs français sont extrêmement précis et que c'est vrai que parfois il faudrait peut-être davantage d'attention, mais en tout cas, tout ce qui peut être fait est aujourd'hui fait.
Ouais, donc rappelons, et vous le disiez en substance, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de la phrase, que c'était au moment de la décristallisation aux anciens combattants africains de faire des démarches.
La démarche.
D'aller absolument. Eux-mêmes absolument. Réclamer la absolument. Revalorisation. Absolument. Éric Doreau, je vous libère. On est à 3 minutes 30 de la fin de l'émission, mais vous avez des obligations, notamment une cérémonie dans moins de 20 minutes maintenant aux Invalides, avec en l'occurrence, je crois, plusieurs chefs d'État africains qui sont présents. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne continuation. Je rappelle tout de même ce documentaire référence, La Force Noire, qu'on peut le voir comment ?
Il a été produit par le CPAD, l'établissement de communication de production du logiciel de la Défense. Il est accessible, on peut le télécharger, je crois.
Formidable. On mettra toutes les indications sur la page Facebook de l'émission et sur le site internet de RFI. Merci.
À bientôt, Marc.
Et Marc Michel reste avec nous encore trois petites minutes. Marc Michel, justement, sur toutes ces démarches qu'ont dû faire les anciens combattants des ex-colonies pour réclamer la revalorisation, en tant qu'historien, en tant que citoyen français, elle vous semble légitime, normale, ces démarches?
Ça va de soi. Et je voudrais saluer, pour terminer, la persévérance de certains. J'ai commencé, moi, dans les années 70, avec un travail universitaire. Éric Doreau, toute sa compétence de terrain m'a rejoint à ce moment-là. Le colonel Champeau, qui dirigeait le musée des troupes de marine. Les anciens des troupes de marine ont joué un très grand rôle. Et puis des individus, en particulier, je voudrais saluer le colonel Rives, qui a été qui a maintenant 97 ans, était un très grand artisan de cette reconnaissance. Et puis des associations un peu partout qui prennent en charge cette reconnaissance mémorielle jusqu'au président de la République, puisque je reviens de Reims, où on a inauguré définitivement, ou réinauguré, on peut dire, ce fameux monument à l'armée noire qui se trouvait à Reims et dont le double se trouve à Bamako.
Effectivement, et c'est grâce à la réplique qui est à Bamako qu'on a pu reconstruire ce monument dont l'histoire est effectivement incroyable. Monument construit, inauguré en 1923, détruit par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale et reconstruit 70 ans plus tard. Il a fallu, pour ceux qui sont sur place dans cette région du côté de Reims, batailler. Il fallait de l'argent, il fallait aussi batailler politiquement pour reconstruire ce monument à la mémoire, donc de la Force Noire, c'est le nom de ce monument. Marc Michel, merci beaucoup d'avoir été avec nous, merci infiniment. Je rappelle votre dernier ouvrage, Combattant de l'Empire, les troupes coloniales dans la Grande Guerre. Je vous renvoie également, chers auditeurs, à l'émission La Marche du Monde de Valérie Nivelon, consacrée notamment à Blaise Diagne, avec évidemment l'émission à réécouter, mais aussi un webdoc à consulter sans modération. Demain, on parlera de la République démocratique du Congo et de la désignation enfin d'un